Donc je voudrais vous remercier d'être venu pour cette table ronde, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, donc qui est consacrée à la traduction de la poésie antique et qui s'inscrit donc dans ce colloque sur poésie contemporaine, poésie antique, poésie contemporaine, dont je rappelle le titre, hein, face à face, affleurement, empreinte. Je rappelle aussi donc que ce colloque est organisé par le LASLAR, hein, je rappelle pour tout le monde, et qu'il est associé donc à l'IMEC, donc là je le dis aussi pour les lycéens qui viennent d'arriver, avec une soirée qui s'appelle le Grand Soir, consacré à Homer, dans lequel vous entendrez donc Emmanuel Lascoux, donc en fait parler de sa traduction notamment. Alors pour revenir donc à la table ronde, je voudrais remercier donc Emmanuel Lascoux, donc qui est ici donc pour sa présence réelle, hein, et Frédéric Boyer que vous voyez sur l'écran pour sa présence audiovisuelle, et je le remercie voilà d'avoir réussi à s'extraire de son temps très extrêmement compté, hein, pour pouvoir malgré tout être parmi nous aujourd'hui. Et donc du fait de cette hybridité, donc la table ronde va s'apparenter peut-être un peu davantage à des entretiens successifs, hein, puisque Frédéric Boyer doit nous quitter à 17h. Et donc voilà, on va commencer davantage par parler de sa propre traduction et on enchaînera ensuite avec, en parlant de celle d'Emmanuel Lascoux. Alors, les deux traductions dont on va parler aujourd'hui, hein, ce sont deux traductions d'œuvres, on va dire, monumentales de la littérature antique, donc, si on peut dire littérature, l'Odyssée, hein, d'Homère, paru donc en fait chez POL, dans la traduction donc d'Emmanuel Lascoux, et Le souci de la terre. Donc, qui est une traduction des Géorgiques de Virgile et qui est parue donc chez Gallimard et qui est une traduction donc de Frédéric Boyer. Et je voudrais juste avant qu'on distingue les deux traductions et les deux traducteurs montrer ce qu'elles ont en commun parce que c'est aussi pour ça qu'on a voulu vous réunir, si on peut dire, c'est que ces deux traductions se présentent toutes les deux comme des traductions poétiques. Qui sont orientés par la volonté de trouver une langue, hein, et qui assument la difficulté qu'il y a pu y avoir à trouver une langue pour faire résonner le texte antique dans le monde contemporain. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait avant tout de trouver la forme, hein, dans laquelle on pourrait en fait entendre le texte antique dans le monde contemporain. Deuxième chose qu'elles ont en commun, c'est qu'elles s'inscrivent à travers ça dans une pensée du temps, hein, dans une réflexion permanente sur le rôle que peut jouer le texte antique dans le présent, mais aussi dans une réflexion, et ça, à mon avis, c'est un des éléments qui fait partie de la démarche contemporaine, hein, donc dans une réflexion sur ce que la lecture présente peut faire apparaître dans le texte antique, hein, et donc dans le fait d'assumer l'idée que la lecture présente apporte des questionnements et en même temps, du coup, apporte de nouvelles lectures possibles du texte antique et fait dire quelque chose peut-être de nouveau au texte antique, par-delà toute question d'anachronisme tel qu'on pouvait les penser auparavant. D'autre part, alors à travers ça, donc elles sont toutes les deux ancrées, je crois, il me semble, autour du souci de la réception. D'autre part, donc ces traductions ont aussi ceci en commun, et je crois qu'il faut le dire aussi, qu'elles sont chacune précédées d'une très longue introduction, voire d'un essai qui en explicite le projet. Et ces deux introductions, d'une certaine manière, renouvellent le genre, puisqu'on pourrait presque les considérer comme des œuvres en elles-mêmes. Et d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure dans les différentes interventions. Et ces deux introductions, et ça aussi, ça me semble important, soulignent la dimension subjective de chacune des entreprises de traduction. Et là, je voudrais juste faire un petit point là-dessus, parce qu'effectivement, on est très loin d'un idéal qui a pu être un idéal pendant longtemps, qui était un idéal d'invisibilité du traducteur. Hein, là, j'utilise des termes qui sont des termes de théorie de la traduction. Hein, d'un idéal d'invisibilité du traducteur. On est très loin de cet idéal-là, me semble-t-il. Et justement, ce qui est intéressant aussi, enfin, ce qui est commun, il me semble, dans vos deux traductions, c'est qu'elles assument une position, enfin, vous assumez une position d'interprète. Hein, vous employez le mot, d'interprète ancré dans le présent, donc, traversé par une histoire, traversé par des émotions, traversé aussi par une connaissance intime de l'œuvre que vous traduisez, donc. Et c'est aussi de cela, donc, que nous pourrons peut-être discuter aujourd'hui. Alors, avant d'y revenir plus précisément, je voudrais vous donc présenter rapidement donc nos deux invités. Donc, Frédéric Boyer, que vous voyez là, est docteur donc en littérature comparée. Je le rappelle parce que la littérature comparée a beaucoup de choses à voir avec la traduction, hein. Et donc, vous avez réalisé une thèse donc, sur Pascal, Dostoïevski et Proust. Vous êtes écrivain, donc, et vous vous présentez avant tout comme un écrivain. Donc, voilà, c'est important, et je voulais le rappeler. Et moi, ce que je soulignerai ici, c'est que dans votre écriture, résonne le dialogue avec l'antique. Hein, je pense à Orphée, qui est une sorte de fil rouge de notre colloque, visiblement. Je pense aussi à Phèdre les oiseaux. Vous êtes aussi, et c'est ce qui vous retient à Paris, directeur des éditions POL et donc aussi traducteur, puisque vous avez traduit Saint-Augustin, Shakespeare, dirigé une traduction de la Bible en collaboration et donc traduit Ce souci de la terre. Emmanuel Lascoux, donc vous aussi, vous êtes auteur d'une thèse. Donc voilà, ça vous rapproche aussi, qui portait sur la déduction homérique. Vous êtes enseignant, donc, en classe préparatoire. Et vous vous présentez, hein, j'ai pu trouver ça, comme un helléniste rêveur à haute voix de grec ancien. Et donc, avant de traduire l'Odyssée, vous avez réalisé un premier projet homérique en compagnie de Daniel Mesguich, qui s'intitulait « L'Iliade des femmes, récit homérique à deux voix ». Et ensuite, une Odyssée des femmes, qui était parue aussi, donc, en 2018. Alors, donc, première question que je voudrais vous poser, Frédéric Boyer. En fait, évidemment, la question la plus simple, la plus évidente, hein, c'est de vous demander si vous pouvez nous expliquer, évidemment, ce qui vous a incité à traduire, hein, les Géorgiques de Virgile. Donc, première question la plus simple.
C'est presque trop simple, hein, parce que je ne sais pas. Non, mais c'est un peu comme les confessions de Saint-Augustin. C'est un des textes comme ça qui m'accompagne depuis très longtemps. Et j'ai toujours tourné autour. Parfois, d'ailleurs, c'est un texte qui m'agaçait. Je ne comprenais même pas mon propre intérêt. Et progressivement, et c'est important pour la traduction, c'est toujours un moment d'élucidation aussi. C'est aussi un moment où on va essayer de comprendre les échos que l'on entend du texte, ce qui nous fait comprendre pourquoi on s'y intéresse, pourquoi aussi il nous résiste. Je pense qu'une bonne traduction, c'est une traduction qui essaie de comprendre la résistance que l'on peut éprouver pour le texte lui-même, pour sa langue, pour ses formes poétiques, en l'occurrence ici, ou pour ses intentions antiques, ses intentions de l'époque, hein, les intentions des Géorgiques, tels que Virgile et ses contemporains les ont comprises. Ce ne sont pas les nôtres aujourd'hui. Voilà. Et c'est un texte qui, moi, me posait quelques énigmes, notamment pendant la fin. Pourquoi Orphée intervient à la fin de ce texte? Pourquoi, finalement, comment ce texte, en même temps, afficher sa volonté d'être une sorte de compendium agraire, du savoir agricole de l'époque, et en même temps y échapper. Voilà, donc c'est toutes ces questions. Et à partir de ce moment-là, ben, on se met un peu en travail, sans forcément savoir au début si on ira au bout, d'ailleurs, mais voilà, mais là, je suis allé au bout.
Voilà. Oui, parce que ça fait partie, en fait, vous dites souvent, et on le voit à travers vos textes, que vous avez un rapport, en fait, quotidien quasiment, en fait, avec les textes antiques. On voit que, d'une certaine manière, la lecture, l'écriture de l'antique, hein, si je peux parler comme cela, enfin, c'est quelque chose qui relève presque d'un exercice, comme on pourrait parler d'exercice antique, enfin, d'une certaine manière. Et donc, pourquoi, à un moment donné, justement, le choix de ce texte-là plutôt que de tel autre, puisque vous avez une connaissance, on va dire, d'une grande partie, en fait, de plusieurs textes antiques là, assez larges, et pourquoi précisément, en fait, justement, le projet devient en fait un projet d'une traduction complète, et à quel moment ça devient ce projet-là? Qu'est-ce qui fait que ça devient ce projet-là?
Ça devient ce projet-là quand progressivement on est en quelque sorte convoqué par par l'idée, convoqué par le travail d'avoir à l'écrire lui-même ce projet. Il y a toujours beaucoup d'ennui au début, en tout cas pour moi, dans une traduction, voilà, parce que au début on rôde autour, on s'y met, et finalement, mais il faut parvenir à ce moment où finalement, dans votre propre langue, dans votre propre écriture, vous commencez à réinventer quelque chose, quoi, voilà, et moi j'insiste beaucoup là-dessus. Le travail de traduction, c'est un travail de réciprocité. C'est-à-dire, bien sûr que l'on va faire passer un texte antique, en tout cas, en l'occurrence, dans le français contemporain, dans, Ce texte va être touché par ce travail-là. Mais, et c'est tout aussi important pour moi, c'est notre propre langue, notre propre écriture, notre propre rythme dans la langue et dans l'écriture vont être touchés par le texte et par la langue que l'on traduit. Voilà. Et c'est cette réciprocité-là dans la traduction qui m'intéresse beaucoup plus que toutes ces questions dont on nous abreuve à l'infini depuis longtemps sur l'intraduisible et sur l'intraduisibilité, qui sont tout à fait passionnantes. Mais moi, je préférerais être je préfère penser le travail de réciprocité qu'il y a dans la traduction, puisque c'est un travail culturel et c'est un travail qui a été à l'origine de ce qu'on peut appeler la civilisation. Voilà, en tout cas, dans ce monde gréco-romain, cette question comme ça de la réciprocité que met en œuvre le travail de traduction est très profonde.
Et donc là, vous en parlez au niveau de la langue. Hein, vous dites bien que c'est le moment où le texte antique fait quelque chose à votre langue, hein, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. En tout cas, il la pousse, il la fait travailler en quelque sorte. Voilà. Sur le rythme, sur les formes, sur le...
Et est-ce qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'interprétation ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, justement, le fait du passage de l'exercice de traduction au fait d'engager la traduction de l'œuvre, est-ce que ça relève aussi à un moment, c'est une question que je vous pose, hein, d'une forme d'interprétation ?
En tout cas, dans mon cas, oui, d'ailleurs, ça peut être d'ailleurs critiqué. Hein, moi, je suis assez ouvert. Hein, mais effectivement, je ne me définis pas comme traducteur au sens strict. Voilà, si je manque, à chaque fois que je me suis engagé dans un travail de traduction, bon, je veux dire, notamment pour les Confessions d'Augustin et pour Virgile ici, c'est parce que je me suis rendu compte à un moment donné qu'effectivement j'avais une interprétation à mettre en œuvre à travers la traduction. Voilà. Alors c'est assez visible avec ce livre avec les Géorgiques, puisque c'est des choses, on peut dire des choses très très, très simples, hein, pour commencer, puisque c'est un livre qui parle effectivement de quelque chose aujourd'hui qui peut nous toucher, le rapport à la nature, le rapport à la terre, le rapport au paysage, le rapport à le rapport au vivant, voilà, qui sont des questions qui sont devenues des questions critiques aujourd'hui. Ces questions-là n'étaient pas critiques à l'époque de Virgile comme elles le sont pour nous aujourd'hui, et pourtant quelque chose va se passer, voilà. Quelque chose va se produire, et c'est là qu'est le travail d'interprétation, où tout d'un coup ce texte, les Géorgiques, en quelque sorte, va délivrer une nouvelle signification qui pour moi est peut-être déjà contenue dans le texte lui-même. C'est un vieux mot, toute traduction, pour moi, doit créer un mouvement d'ampliation, c'est-à-dire d'augmentation de la réception du texte original. Voilà. Et c'est comme ça que les textes deviennent grands, comme ça que les textes sont transmis, et c'est comme ça même que notre relation à l'antique, puisqu'il en est question ici, notre relation à l'antique peut être une relation vivante et nécessaire et utile. C'est parce que contemporain, nous faisons ce travail d'ampliation du texte antique à partir de notre propre réception, de notre propre émotion, de notre propre interrogation. Voilà. Et alors, pour ce texte-là, effectivement, ça m'a paru important de le faire.
Est-ce que ça peut aussi se cristalliser dans le choix du titre ? Est-ce qu'on peut dire que le choix de votre titre cristallise justement cette question ?
En tout cas, ça le signifie, effectivement. Alors, moi, c'est un peu aussi une petite coquetterie, pardon. Voilà, je ne vois pas pourquoi on ne traduirait pas les titres. Donc, je l'ai fait pour les Confessions, que j'ai traduit par les aveux, et je soutiens en tout cas que pour les Confessions, c'est une vraie traduction. Hein, c'est pas du tout. Hein. Là, pour le Souci de la Terre, c'est plus. Bon, on est un peu au-delà de la traduction elle-même. On est dans une espèce de traduction interprétative, et qui effectivement est là pour provoquer une réception nouvelle, enfin pour provoquer une interrogation neuve que le mot géorgique, qui est une translittération du latin, le latin étant lui-même une translittération du grec, donc à force de translittérer, on ne comprend plus rien. Donc l'idée était de redonner quelque chose de sémantique dans la traduction elle-même du titre. Voilà.
Et d'inciter donc à une forme de lecture justement éco-poétique, comme on le disait.
Oui, tout à fait, mais j'assume complètement ça.
Oui, bien sûr, mais effectivement, et du coup de provoquer en fait d'une certaine manière cette réception.
Comme voilà, dit, voilà. Tout à fait. Donc, ça, éco-poétique. Et ça peut m'être reproché, hein, mais je l'assume. Ouais, non.
Alors, est-ce que par rapport à ça, en fait. Justement, dans le fait que vous avez traduit aussi bien du Shakespeare, par exemple, que donc Saint-Augustin ou que donc Virgile, est-ce qu'il y a une spécificité pour vous de la traduction des textes anciens ? Puisque vous dites que ça correspond à l'idée d'une action par rapport à l'antique. Est-ce que vous avez cette même idée quand vous traduisez Shakespeare ou est-ce qu'il y a une spécificité pour vous de la relation à l'antique à travers ça ? Et quelle serait cette spécificité ?
Ah oui, bonne question. Alors, oui, mais d'abord, Shakespeare, c'est pas pareil, puisque bon, j'ai été appelé à traduire Shakespeare. Là, c'est presque une commande, hein, puisqu'on m'a demandé de traduire Richard II pour le théâtre. Et ensuite, on m'a demandé aussi de traduire les sonnets, toujours aussi pour le théâtre, pour qu'il soit dit. Bon, donc, on est un peu dans un autre rapport. Et oui, pour moi, il y a. Enfin, alors, je vais le dire très simplement, hein, c'est pas. Mais je pense que peut-être qu'Emmanuel, il dira un peu les mêmes choses peut-être par rapport au grec. Moi, c'est par rapport au latin, effectivement. J'ai une passion pour la langue latine. Moi, je me sens plus latin que grec, d'ailleurs. Je me sens romain, en quelque sorte. Et c'est ce qui nous diffère, Emmanuel et moi. Mais effectivement, le rapport à la langue latine, il est différent, pour moi, que le rapport... Par rapport à l'anglais de Shakespeare, ou je sais pas, ou à l'italien de Dante, ou à l'italien, voilà, ou à une langue européenne contemporaine, etc. Voilà, c'est dans un rapport personnel à la langue latine que j'ai pu traduire. Et moi, c'est un rapport poétique aux langues. Voilà, c'est-à-dire que mon souci, quand je traduis les géorgiques, c'est de me demander comment, dans ma propre pratique d'écriture et ma propre poétique, en quelque sorte, je peux rendre quelque chose de cette langue dite morte, voilà, et de cette œuvre, qui appartient à ce qu'on appelle l'antique, et comment finalement cette confrontation avec ce que vous appelez l'antique devient une sorte de d'épreuve poétique au sens strict, en tout cas pour le traducteur et l'écrivain que je suis. Voilà.
Et est-ce que le fait que ce soit justement précisément une langue qu'on dit morte ou qu'on dit antique, est-ce que ça a une spécificité là-dedans en fait ? Est-ce que, ou est-ce que c'est une langue comme une autre, mais que vous préférez par rapport à...
Non, ce n'est pas une langue comme une autre, puisque même si on peut restituer des choses de façon savante, tout ça, mais vous n'entendez plus parler latin, de toute façon, et même vous n'entendez plus parler grec ancien, sauf avec Emmanuel, mais pour ça, c'est une autre... Donc, c'est un rapport particulier. Il y a un rapport à la musique de la langue, au rythme de la langue, à la corporéité de la langue qui est quand même... qui est absent, ce rapport-là. Alors, vous allez essayer de l'habiter avec votre propre conception du rythme, votre propre conception de la musique linguistique, votre propre conception comme ça du rapport physique à une langue. Et c'est ce qui est intéressant. Voilà, c'est ce qui est intéressant et même passionnant. Et c'est ce qui fait que ces langues dites mortes. Elles ont un avenir profond, puisqu'elles seront toujours là pour réinterroger notre propre rapport à la langue elle-même, si vous voulez. Voilà. C'est comme si c'était des terres un peu inconnues que l'on peut réexplorer avec nos propres questions sur la langue, sur le corps des langues, c'est la beauté, je trouve, de ce travail-là. Et c'est la place de ce qu'on appelle l'Antiquité, en tout cas en littérature. Voilà. La place de l'Antiquité, c'est pas simplement une place patrimoniale, à laquelle on s'use un peu vite d'ailleurs. C'est un rapport physique aussi. Voilà. C'est un rapport physique à la fois de mémoire, un rapport c'est un rapport à la fois impossible et nécessaire. Voilà, impossible parce qu'on ne pourra jamais restituer cette langue-là et ce rapport-là. Mais c'est même très formel, même dans la formalité métrique de la langue latine. C'est très compliqué de restituer dans le français contemporain cette formalité métrique. Voilà, bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, donc, d'abord, on interroge cette forme antique et on essaie de la... Voilà, de la réinterpréter avec notre propre sensibilité poétique, linguistique. Voilà. Et c'est ce travail-là, qui fait culture. C'est ce travail-là qui fait qu'à la fois notre rapport à notre propre langue est transformé, enrichi, approfondi, questionné d'ailleurs aussi, et en même temps, on arrive à retransmettre toute une part. Toute une part d'un monde qui pourrait se perdre très vite et qui pourrait être oublié et qui continue en fait à nous informer en quelque sorte au sens fort.
Et alors justement en fait là quand vous en parlez en fait il y a l'idée effectivement de la langue morte et bon on pourrait dire faire revivre la langue morte et dans votre introduction vous dites en fait qu'il s'agit d'une langue qui a été d'une certaine manière mise sous silence. Plutôt qu'une langue morte qui a été mise sous silence, et qu'il s'agit de refaire chanter. Hein, et on retrouve. Vous dites en fait, il s'agit de retrouver, de refaire chanter en fait d'une certaine manière la langue virgilienne en fait aussi. Donc à travers ça, en fait, il y a aussi cette question du chant hein, qu'on retrouve. Donc voilà. Donc qui est aussi l'idée du. Enfin, on pourrait aussi parler du souffle. On pourrait parler aussi enfin de la présence. On pourrait voilà. Donc de quelle manière vous avez en fait travailler cela ou en fait vous êtes exercé à cela dans la traduction?
Non, mais j'ai mis beaucoup de temps parce que pour cette traduction-là, j'ai essayé plein de possibilités. Voilà, j'ai essayé de restituer en français l'hexamètre latin. J'ai essayé comme beaucoup d'autres avant, hein, de trouver une formule métrique contemporaine qui pourrait s'adapter à la traduction. J'ai essayé de faire un grand texte en prose même. Vous voyez, j'ai essayé plusieurs essais et ça, voilà, jusqu'à trouver quelque chose que j'aurais du mal à définir d'ailleurs, qui est un poème en vers libre, mais qui alterne des formes, qui essaie de créer un rythme même dans les différentes formes que l'on met en œuvre dans la traduction. Ça peut être des vers libres, ça peut être des espèces de stances ou de versets, ça peut être voilà. Et c'est ce rythme-là qu'on essaie de créer. Alors ça peut paraître étrange d'exploser en quelque sorte la forme originale pour l'interroger aujourd'hui. Mais voilà, c'est le moyen que j'ai trouvé en tout cas pour ce texte-là.
Et donc en fait justement. Là, vous dites que vous avez beaucoup essayé. Il se trouve qu'il y a eu un essai, je ne sais pas si c'est un essai, mais dans Orphée, que vous avez publié en 2008, 2009, il y avait déjà, en fait, un morceau de traduction, si on peut dire, un passage, puisque le passage d'Orphée...
Oui, tout à fait, qu'on retrouve à peu près dans la version finale.
Voilà, mais pas tout à fait à peu près, mais pas tout à fait.
Non, ce n'est pas tout à fait à peu près.
Voilà. Il y a quand même des différences, et justement... Est-ce que, parce que ça nous, je pense que ça peut permettre de comprendre un peu votre artisanat de traducteur, en fait, justement, comment vous avez retravaillé ce passage, pourquoi et comment vous l'avez retravaillé? C'est-à-dire que le fait que ce soit placé, je ne sais pas si c'est lié au fait que ce soit placé dans l'œuvre complète, ou si c'est le fait que ça a évolué, votre lecture a évolué, votre travail, mais qu'est-ce qui a fait que ça a quand même malgré tout un peu...
C'est les deux, d'abord, parce que... Non, mais c'est les deux, puisque c'est restitué vraiment dans l'œuvre complète, donc on change à la fois de rythme et d'intention. Là, à la fin du roman, c'était juste de mettre à la fin du roman, comme ça, comme un poème traduit, qui était un peu la matrice du roman, la matrice rêvée du roman, comme ça. Bon. Là, il fallait suivre l'ensemble de l'œuvre, et donc, forcément, j'étais amené à quelques petites modifications, et puis aussi parce que c'était, je me souviens plus de quand date ce roman Orphée, et c'est pas tout jeune, donc je sais pas 4, 5, 6 ans après, quand on reprend la traduction, ben heureusement, on a envie de... Moi, par exemple, je rêverais de retraduire les Confessions aujourd'hui. Je pense que je ferais quelque chose de tout à fait différent. Je vous rassure, je vais pas le faire. Et je pense qu'effectivement, voilà, et d'où l'importance d'ailleurs de la diversité des traductions et de la répétition des traductions. Voilà, parce que On vous demande toujours, mais pourquoi une nouvelle traduction d'Homère, par exemple? Oh là là, mais il y en a déjà tellement. Mais en fait, non, justement, c'est plus les traductions se multiplient, plus la réception s'approfondit. Moi, je vous dis, par exemple, effectivement, moi, et si je devais demain retraduire les Géorgiques, peut-être j'inventerais autre chose, je trouverais autre chose.
Là, en fait, vous l'avez d'une certaine manière réécrit dans la perspective un peu de cette vitesse. On a parlé de cette vitesse qu'il y a dans votre traduction, enfin indépendamment de l'adverbe lui-même. Enfin, le fait effectivement de donner cette rapidité en permanence qui fait l'incitation à travailler les champs, hein, enfin bon, et l'incitation, oui, voilà, à retourner à la terre, oui.
C'est une technique lyrique aussi qui est mise en œuvre parce que c'est compliqué moi je ne veux pas, mais parce que soit vous vous appliquez à une traduction un peu académique entre guillemets, voilà, qui va respecter autant que faire se peut. Parce que là, si on rentre un peu dans la technique, bon, on va essayer de respecter autant que faire se peut l'ordre de la phrase latine. Mais en français, on ne peut pas aller jusqu'au bout de ce respect-là. Bon, on va essayer de respecter le rythme des vers. C'est un travail qui est vite épuisant. Et si on le fait jusqu'au bout, ça donne quand même une traduction, à mon goût, trop académique. Et on quitte un peu en tout cas moi ce qui fait la force du texte original. Donc il faut réinventer une forme, voilà, il faut réinventer une forme pour faire entendre quelque chose, parce que cette rapidité, alors elle m'est peut-être propre dans l'écriture et dans la traduction, mais moi je l'entends quand je lis la phrase latine, voilà, j'entends quelque chose de beaucoup plus compact, de beaucoup plus rapide, et de beaucoup plus structuré d'ailleurs que souvent les traductions auxquelles on avait été habitué.
Alors, je dois encore vous poser une question, qui concerne votre pratique, puis après peut-être qu'on ouvrira sur la mise en relation des deux traductions. Vous écrivez, en fait, c'était une question qui tourne autour de la mélancolie, hein, que vous traversez en fait, dans votre introduction, et dont vous montrez que justement les géorgiques permettent d'une certaine manière de la mettre à distance, hein, par ce retour à la terre. Et vous écrivez, là je parle de la mélancolie ou de la nostalgie aussi historique, hein, pour le coup, vous écrivez: relire aujourd'hui Virgile, c'est ainsi mettre à l'épreuve notre propre souci contemporain du monde, notre propre impuissance à le chanter et l'adopter d'une certaine façon. Donc est-ce qu'il y a pour vous, donc en fait, un regard, on va dire, alors pour le coup, je parle cette fois-ci de la dimension historique, hein, avant de parler de la dimension en fait plutôt mythologique, hein, est-ce qu'il y a un regard qu'on pourrait dire mélancolique par rapport en fait à ces textes anciens? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, indépendamment complètement de la question, justement, enfin, même peut-être en croisant la question du fait de redonner vie et du fait d'exercer, de faire Virgile, hein, voilà, mais quelle place prend la mélancolie? Et en même temps, ce à quoi je réfléchis, c'est: dans quelle mesure l'activité de traduction permet...
Je comprends.
Voilà.
Alors, non, mais d'abord...
Alors, je dis pour tout le monde, permet de soit d'entretenir, soit d'interrompre, soit de suspendre cette question, ce rapport mélancolique. Voilà. Mais bon.
Alors, c'est une question un peu compliquée, parce que d'abord, pour moi en tout cas, pour ma lecture, le texte virgilien aborde cette mélancolie. Hein, C'est un texte qu'on peut lire aussi comme une sorte de chant, non pas de déploration, ce serait trop fort, mais de mélancolie sur le rapport au monde, à la nature, le rapport. Bon, c'est très profond dans ce texte-là, et ça va jusqu'à quelque chose de très, en tout cas que j'ai découvert et à laquelle j'ai tenu, jusqu'à cette question du rapport du monde et de l'autre monde. Voilà, hein, c'est la question qui est au cœur de ce texte-là, sous ses habits de traité agraire, ce qu'il était d'ailleurs aussi, hein, et c'est très intéressant aussi, mais il touche quelque chose de très profond, qui est notre rapport à la terre et à l'autre monde, ou à l'autre monde, voilà, et le rapport en fait à la vie et à la mort, hein, voilà, avec ce vers très important de la traduction au livre 4, je crois, qui éclaire un peu tout le livre, qui est: il n'y a pas de lieu, alors ça dépend comment on traduit le datif en latin, il n'y a pas de lieu pour la mort, où il n'y a pas de lieu à la mort, il n'y a pas de lieu. Bon, et c'est-à-dire que, alors, qui était quelque chose quand même d'important à déclarer, si on reprend les conceptions à la fois spirituelles et mythologiques de l'Antiquité et du monde romain, quant à la mort, parce qu'il dit dans ce texte que la mort n'a pas de lieu, voilà. Ou en tout cas, on ne peut pas attribuer un lieu à la mort. Voilà. Donc, c'est le sens de ce texte, voilà. Et effectivement, ça touche aussi l'activité de traduction de ces textes-là. Voilà, mais ça c'est vrai, puisque quand vous traduisez un texte aussi ancien, ben, vous interrogez quelque chose, voilà, d'un rapport à la disparition, à la mort, et que toute traduction pourrait être, j'irais peut-être pas jusque-là, mais toute traduction a à faire avec cette histoire-là quand même. En tout cas, quand on traduit comme ça des textes antiques et des textes anciens, toute traduction de l'Antiquité a peut-être à faire avec la question d'un champ perdu. Et donc forcément, alors avec ce texte-là, ça le touche d'autant plus, mais je crois qu'avec Homère, par exemple, et avec l'Odyssée, c'est aussi une question, hein, puisque je pense que c'est même une des questions qu'il y a dans l'Odyssée, la question du champ. Donc voilà, et effectivement, ça par répercussion, en tout cas quand on s'intéresse à ça, quand on s'intéresse à la question du champ dans la langue, à la question du champ dans la littérature contemporaine, on s'intéresse à cette question, voilà, quel est notre rapport au champ aujourd'hui dans la langue et dans les pratiques littéraires de cette langue, voilà. C'est une question qui m'habite beaucoup, c'est la question de l'expression lyrique aujourd'hui, en poésie, c'est une question qui est... Mais là, il faudrait faire un autre colloque, là, Paul.
Oui. Et le fait là de passer, comme vous dites, par une langue donc morte, permet d'une certaine manière, de retrouver quelque chose, non seulement de nouveau, mais aussi malgré tout de vivant. Enfin, il y a quand même cette idée-là. Il y a une perspective un peu de cette manière-là. Enfin, dans ce que vous dites. Dans la
Non, mais bien sûr, parce que vous savez, on a l'impression que c'est nouveau tout ça, mais ça a toujours été ça la traduction, les grandes traductions. Ça a toujours été d'essayer, alors on n'y arrivait pas, mais d'essayer de créer quelque chose à partir de ce travail de réinterprétation et de retransmission d'un texte ou d'une langue ou d'une œuvre qui nous a précédé ou qui va. Saint Jérôme décide de retraduire la Bible en latin. Elle était déjà traduite, alors pas intégralement, mais c'est ce qu'on appelle la Vetus Latina. Il y avait, dès la fin du premier siècle, il y a des traductions latines de la Bible, en tout cas et Jérôme, à la fin du 4e siècle, début du 5e siècle, décide de retraduire tout ça en latin. Il le fait pourquoi? On a pas mal de lettres de Jérôme qui expliquent. Il dit parce que je veux traduire les saintes écritures dans la littérature de mon époque. Alors c'est pas simplement un caprice, c'est que effectivement sinon on n'entend plus rien. Donc c'est une question d'écoute, d'écoute, on peut dire c'est une question d'écoute des morts aussi, c'est une question d'écoute de la voix de textes d'une voix disparue dans les textes, et cette voix-là il faut lui redonner vie. Pour lui redonner vie, et cette façon de redonner vie aux voix des textes anciens, c'est aussi une façon d'interroger notre propre voix. Voilà, c'est ça que moi qui m'intéresse. Voilà.
Moi, je voudrais faire comme si c'était toujours Frédéric qui parlait, c'est-à-dire comme si c'était. Je voudrais juste là être ton prête-voix, si tu le permets. Et avec un exemple très précis de ta traduction, qui est une traduction, mais au sens étymologique. C'est vraiment là, de l'ordre du transport, à tel point que quand tu as dit au début de l'entretien que on traduit pour une élucidation, j'ai entendu hallucination à cause d'un terme.
Ah ben aussi peut-être.
Voilà. Au livre 3, il est question des vaches. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, en Normandie, on sait bien le problème des vaches, n'est-ce pas? Et C'est très important, hein, parce que n'oubliez pas que Virgile, il est passé en français par Hugo uniquement par la fameuse expression « mugitus squeboum », qui est une espèce de bruit absolument incroyable de mugissement des bœufs, dans le fameux poème des Contemplations, Pasteurs et troupeaux. Donc comment on fait pour enfiler les voix mortes, perdues, les unes dans les autres? Et alors, il est question des vaches, et Virgile, comme toujours, c'est peut-être ça, je ne sais pas, moi, je dirais c'est peut-être ça aussi la mélancolie de Virgile, c'est-à-dire, on vous décrit les soins qu'il faut faire. Je fais une parenthèse sur soin, parce qu'heureusement, tu n'as pas traduit le soin de la terre. Je te remercie personnellement. Ça, c'est un cri de colère. J'en ai marre de l'éthique du care. Cura, c'est pas le care. Cura, c'est du souci. Et souci, c'est un mot tellement beau. Et tellement beau parce qu'il est tellement vieux. C'est tout autre chose que le soin. Et je ne nie pas l'importance du soin, y compris qu'il y a dans le Georgos. Et donc, les vaches, elles sont bien là et elles sont gravides, gravidae, elles sont pleines. Et Virgile dit ceci, juste, c'est le vers, je crois, c'est 140 du 3, je peux t'en prendre le texte parce que j'ai plus en tête. J'ai en tête la fin de ton vers. Et pour montrer que s'étant apparemment, en allant le plus loin d'une traduction académique, comme tu le dis bien, c'est en allant le plus loin que ça, de ça, qu'on retrouve la mimésis, c'est-à-dire que tu crées du mirage sonore, de latin en français. Puisque tu dis, si je retrouve ça, le vers latin c'est « ex actis gravidae cum mensibus errant », c'est-à-dire littéralement « lorsque les mois sont accomplis, quand les vaches sont à terme, elles sont lourdes, gravides, et toi tu traduis, je ne vais pas retrouver là tout de suite, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est hyper dur de retrouver dans sa traduction. Il l'a fait exprès, parce qu'il numérote pas les vers.
Je n'ai pas numéroté les vers. Je veux dire, c'est l'éditeur qui n'a pas voulu. Hein.
Mais je pense que c'est encore mieux. Et puis, il fait des coupes. C'est-à-dire, à un moment, il fait un chapitre avec des blancs. Moi, ce que je pense, le plus bel hommage que tu fais à la voix perdue, c'est le blanc. C'est parce que c'est une traduction qui est extrêmement... qui aère complètement et qui casse. Et alors, toi, tu traduis, le vers, c'est lorsqu'elles errent. Errant, c'est la troisième du pluriel en latin, du verbe errer, elles errent. Comme ça, les vaches. Et Virgile vient de dire, il leur faut beaucoup d'espace. Et puis, il leur faut de la tranquillité, et puis des cours d'eau bien remplis. Et Frédéric Boyer traduit, elles qui, gravides, lourdes, là, c'est du calque, errantes. Les vaches errantes, participent à poser. Or, errante, c'est le verbe latin. C'est comme si, tout d'un coup, la langue latine, dans une traduction très très loin aussi du latin, rencontrait la sonorité même du verbe latin. Là, c'est une... voilà. Donc pour moi, la réussite, elle est aussi dans le fait qu'en allant le plus loin, apparemment, des pratiques traditionnelles de traduction, on se donne la chance de réentendre en direct le latin dans le français, comme aurait dit Montaigne quand il parlait d'interpréter, au sens de interpréter, c'est s'entre-prêter. Tu me prêtes, je te prête. C'est du potlatch. Tu me donnes, je te donne.
Je lis. Ouais.
Bon. Errante. C'est du latin, errante. Tu aurais pu l'écrire en latin, mais tu as écrit le participe français. Voilà.
Juste, parce que je ne voudrais pas vous retenir, mais du coup, je rebondis sur une dernière question sur ce que vient de dire Emmanuel. Justement, à l'inverse, par exemple, dans Orphée, mais pas seulement, il y a des mots latins qui apparaissent et qui entraînent du français, c'est-à-dire que ça infuse le français, c'est-à-dire que votre écriture, là, en fait, ça irradie dans le français, ou voilà, ça se fond dans le français. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait plus forcément la différence, on ne fait plus forcément la séparation entre le latin et le français. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a aussi chez vous, à certains moments, à l'opposé de cette distance, au contraire, à ce moment-là, quelque chose qui est une langue commune.
Oh ben, disons, entre le français et le latin, bien sûr. C'est on peut s'amuser à faire une traduction qui ne serait pas une traduction littérale, mais qui serait une une traduction translittérée en quelque sorte. Voilà. Bon, et parce que le français est tellement déjà infusé de latin et que effectivement on peut se permettre avec le latin, quand on traduit le latin en français, ce genre de choses, et qu'effectivement on fait entendre un écho. Voilà, qui est l'écho qui a été aussi celui qui a construit notre langue un peu. Hein, voilà, donc c'est intéressant. Hein, c'est beau. Une langue n'est jamais seule, une langue n'est jamais toute seule. C'est pas vrai, il n'y a pas de langue toute seule. Voilà, les langues, elles sont. Elles se créent, elles vivent aussi parce qu'elles sont en croisement, en communication, même à travers l'étymologie, à travers la translittération, qui est quelque chose de très fort dans la constitution des langues, en tout cas, que ce soit du grec au latin, du latin au français, on a comme ça un travail comme ça qui rend toutes ces langues, qui les rend présentes d'une certaine façon dans la sonorité même de notre langue. Donc c'est vrai.
On vous remercie. Je ne veux pas qu'on vous retienne plus.
Bon, merci, oui.
Voilà, je sais que vous êtes prêts. Voilà. Donc, merci beaucoup, même si, d'avoir été intervenu, justement, enfin, d'avoir accepté l'invitation, et d'avoir, malgré tout, malgré les difficultés, en fait, participé de cette manière.
Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Et voilà, j'espère que... À bientôt, j'espère, de toute façon.
À bientôt, merci.
Au revoir, Emmanuel.
Salut, Frédéric.
Au revoir. Bien, alors on va continuer en fait, cette fois-ci sans la médiation de l'écran, hein, on va dire, sans cette voix qui nous vient de loin, hein, voilà. Et donc on va continuer cette fois-ci avec, alors, des échos avec ce qu'on a pu déjà entendre, hein, je pense, enfin beaucoup, et puis aussi des spécificités, parce que malgré tout, il me semble que le projet, enfin, est quand même relève de d'éléments différents. Mais il y a un point commun, enfin je crois, c'est cette volonté, effectivement, dans cette traduction, donc de l'Odyssée d'Homère, hein, donc qui est ici, voilà, cette fois-ci avec le même titre, hein, l'Odyssée. Voilà, il n'y a pas besoin de.
Je sais pas, je crois.
Voilà. Donc cette volonté de prendre en compte le lecteur contemporain et même l'auditeur contemporain, c'est-à-dire cette volonté d'en faire une langue, un texte, en fait, qui soit chantante aussi dans le monde contemporain. Alors comment ça s'est passé, ça, en fait, comment ça s'est construit?
Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas un traducteur. C'est très simple, parce que c'est la première publication qui peut s'appeler traduction. En fait, je ne l'appelle pas traduction, même si Frédéric, justement, m'a dit « Non, mais si tu ne mets pas traduction sur la couverture, ils ne vont rien comprendre. » Alors, en réalité, moi, je l'appelle... je voulais que ce soit sur la couverture, mais ce n'est pas grave. Je l'appelle, c'est marqué ensuite, version française. C'est-à-dire, c'est une VF. Moi, je ne suis pas traducteur. Pourquoi ? Parce que ce qui me travaille depuis très longtemps, depuis l'âge de certains qui sont dans la salle, c'est, comme l'a bien dit Frédéric Boyer ici, c'est retrouver, non pas de la langue perdue, mais du son perdu. Retrouver du son perdu, ce qui est encore un peu différent. Retrouver une littérature, retrouver une langue, retrouver une culture. Je le fais aussi parce qu'il se trouve que je fais du grec, du latin, que je l'enseigne, cela. Donc forcément, vous ne pouvez pas apprendre, comme vient de le dire Frédéric, une langue n'est jamais seule par rapport aux autres langues. Puis elle n'est pas seule, parce que quand vous prenez le fil langue, toute la couverture vient, c'est-à-dire le monde en antique, en entier. Moi, ce qui m'a toujours intrigué, c'est... à la fois un regret, une petite colère, parce que, comme par ailleurs, je me pique d'être un peu musicien, parce que c'est mes deux pratiques dans l'existence, c'est de faire de la musique et de faire du grec, mais aussi du latin. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte, en fait, que quand je faisais de la musique, je cherchais des choses que je cherchais en grec ou en latin, et quand je faisais du latin et du grec, je cherchais des choses que je cherchais au piano, quand vous essayez de comprendre comment vous allez phraser du Mozart ou du Brahms, comment il faut faire des courbes. Voilà. Quand on chante, quand on joue d'un instrument, tout le monde sait, quand on fait de la musique, comme on dit... puisque Frédéric dit « il faut faire Virgile », bon, ben, c'est comme faire de la musique. Si vous faites de la musique, quelle que soit votre ambition, c'est une activité journalière, en fait, vous essayez, comme un menuisier, comme n'importe quel plasticien, vous essayez de donner forme à des courbes, très souvent. Voilà. Et donc, il se trouve que, vous le savez, on enseigne les langues anciennes qui sont mortes. Oui, de ce point de vue-là, il a raison, elles sont complètement mortes. Du point de vue sonore, elles sont mortes. Même si, c'est ce que je montrais dans son exemple, elles peuvent quand même un peu revivre dans la langue que nous parlons. Bon, mais elles sont mortes. Et donc moi, je n'aurais voulu, il y a même 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, non, je ne voulais pas traduire. J'ai voulu faire des enregistrements, ça j'en ai fait souvent, je fais de la performance. Parce que j'ai essayé non pas de reconstituer, parce qu'on ne peut pas, c'est mort. Mais on a des connaissances scientifiques précises sur ces courbes que faisait le grec ancien. On a des traités, on a des vieilles partitions de musique antique, on a la poésie elle-même, on a les textes anciens qui parlent. Les Grecs étaient obsédés, comme les Romains, par la voix. Ils ne parlent que de ça. Même les philosophes ne parlent que de ça. Si vous lisez Platon, ils parlent que de l'importance de la voix, de la musique. Tous parlent que de ça. Et évidemment, autant revenir à la source, toujours, c'est-à-dire, ils ne parlent que de ça, les anciens, parce qu'au début, il y a Homère. Et que Homère est un début pour nous et pour eux, mais Homère était lui-même une fin de tout un âge de poèmes et de voix qui ont complètement disparu, qui sont du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Autrement dit, Homère, c'est la fin de tout un âge de l'épopée, vous savez, qu'on transmet comme ça oralement, comme en Afrique, les griots vont transmettre des grandes épopées orales, comme le blues, au départ, est un art musical fait par des gens qui lisent pas la musique, qui sont comme les bardes à moitié aveugles et qui chantent aux enterrements. Tout ça, c'est de la transmission orale. Puis vous savez bien que le problème de l'Occident, c'est-à-dire de la civilisation où le soleil se couche, c'est que le coucher du soleil, ça a été de coucher par écrit la voix perdue. Et donc, moi, j'ai toujours un peu été frustré dans mes études de grec du fait que, bon sang, on écrit cette langue. Les anciens nous ont transmis, par exemple, des accents. On les note en grec. On les note pas en latin, mais on les note en grec. Et jamais personne ne s'intéresse à ça. Ah si, on vous embête en thème grec à mettre les accents. Ah oui, mais jamais on se dit comment on pouvait prononcer un accent aigu sur une voyelle brève. Alors un accent aigu sur une voyelle brève, c'est comme une croche aiguë. Sol, do. Sol, ça c'est un accent aigu. Pro, logos. Voilà, trois brèves avec l'accent sur le haut. Même si vous n'avez pas fait de grec, vous entendez. Ta, ta, ta. En Afrique, il y a une langue qui s'appelle le Yoruba, qui est une langue à ton, et on tape sur des tambours, et de village à village, les gens, ils parlent avec les tambours. C'est-à-dire, les autres, ils entendent de la conversation juste avec des drums, vous voyez, avec des tons. Alors ça, moi, ça m'a toujours fasciné. Le grec, c'est une langue avec ses tons. Il y a 3-4 positions de tons, c'est pas compliqué une fois qu'on le sait. Mais pourquoi on ne le fait pas? Comment voulez-vous? Et il y a des thèses de poésie, et il y a des millions de pages écrites sur Homère et sur tous les anciens, et il n'y a jamais personne qui ose ou pas. Si, il y en a toujours. Une dizaine d'hurluberlus tous les siècles. Depuis, dans l'Occident, ça commence à la Renaissance. Parce que les grands Italiens qui nous ont amenés, qui ont commencé à déchiffrer les premiers manuscrits que les Byzantins rapportaient dans leur bagage, eh bien, eux, ils étaient fascinés parce qu'ils étaient en train d'inventer l'opéra. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est comment je peux dire le premier vers de l'Odyssée ou de l'Iliade. Comment ça peut se dire si je respecte le texte comme si c'était une partition minimale, sans savoir si ce que je fais est juste, mais peut-être que dans les 40 ou 50% de ce que je sais, si je rajoute 40 ou 50% forcément de moi, c'est en ce sens aussi que c'est pas, pardonnez-moi de citer des gros hommes, mais comme disait Hugo dans la préface des Contemplations, hein, que vous comprenez pas que quand je vous parle de moi, c'est que je vous parle de vous, quoi. Bon, donc l'égologie en la matière, ça veut pas dire grand-chose. De même, la subjectivité, peut-être, je sais pas si le combat, il est peut-être pas là. Pour les anciens, la voix, c'est comme la 4G, enfin, c'est une espèce de 1000G, c'est-à-dire, vous savez que ce que fait la haine, il se branche sur la Wi-Fi de la muse. Et là, il est un amplificateur. Dis-moi, muse. C'est-à-dire que l'aide ne dit jamais je. Si, il dit je, mais il dit c'est pas moi. C'est moi qui fait le son, ça sort de ma bouche, mais le contenu, et n'oublions jamais la phrase de Nietzsche, hein, pour les anciens, le seul contenu, c'est la forme, donc le contenu, ça ne veut rien dire séparé de la forme, vous le savez, eh bien, ça passe par là. Donc moi, j'ai passé 40 ans de ma vie à essayer de faire passer ce contenu, alors, dans une forme sonore que j'ai bricolée moi-même, voilà. Et puis, au bout d'un moment, non pas j'ai vu les limites de l'exercice, parce que bon, c'est un peu bizarre, mon grec ancien, il sonne comme du japonais, bon. Mais oui, parce qu'il se trouve que les linguistes vous disent que si vous voulez un équivalent linguistique du grec ancien, ça sonne comme du japonais, donc je ne l'ai pas inventé. Mais voilà, parce qu'il y a des longues et des brèves, et que l'accent peut être sur une brève, et que la longue après, enfin, c'est comme en japonais. Ou c'est comme en suédois, ou c'est comme en yoruba. Bon. Donc vous avez des équivalents modernes, vous pouvez vous amuser à reconstruire cette langue perdue, hein, une espèce de Jurassic Park du grec ancien. Mais, après, vous vous dites, bon, ça, c'est bien, toi, tu en profites. Et puis ton public, il peut en profiter, il profite de ton grec ancien qui ne comprend pas, et s'il le comprend, c'est pas comme ça que lui, il le prononce, un helléniste. Et puis après, il peut traduire. Mais il est évident qu'il y a un moment où on se dit, il faudrait que tu arrives à faire passer cette liberté que tu cherches du grec ancien retrouvé, à la faire passer dans une autre forme, dans une VF que tu vas, comme dit Frédéric, tu vas chercher une forme française qui soit presque aussi directe et naturelle que l'espèce de grec reconstitué que tu prétends être direct et naturel. Évidemment, tout ça, c'est de l'artificiel et du faux. Voilà.
Je sais pas si je réponds. Oui, oui, absolument, absolument. Et dans ces cas-là, justement, comment on fait pour chercher cette langue française, en fait?
Alors, eh ben, on fait tout le contraire de ce que je demande à mes élèves de grec de faire. C'est-à-dire, j'ai fait tomber toutes les barrières que je m'impose quand on fait de la version grecque. C'est-à-dire, comme dit Duras, il y a une très belle phrase de Marguerite Duras dans un entretien sur la traduction qu'une amie durassienne qui s'appelle Simona Crippa m'a soufflée à l'occasion d'un débat comme ça sur Homère. Duras dit, quand on traduit, il faut être scandaleux même. On peut sortir de toutes les limites s'il y a la musique. Le grand péché, c'est de pécher contre la musique en traduction. Pas contre la musique du texte, puisque vous ne pouvez pas la rendre, mais contre la musique comme objet sonore. Donc, par exemple, j'en discutais avec une collègue qui va parler demain, et malheureusement que je ne pourrai pas entendre, on en parlait, la formule homérique. Quand on lit n'importe quelle traduction d'Homère, ou quand on lit Homère parce qu'on est helléniste, on sait tous que chez Homère, il y a plus de 45 à 50% de répétition du même mot, du même colonne, membre de vers, du même vers, de la même séquence. Homère n'est fait que de ce qu'on appelle aujourd'hui des samples ou des boucles, des loops dans la musique électronique. C'est que des boucles. Alors évidemment, moi, je m'amuse à traduire à chaque fois, parfois de la même manière, mais parfois différemment à chaque fois, la même formule homérique. Scandale ! Oui, c'est scandaleux. C'est scandaleux, mais c'est scandaleux dans une optique moderne de la traduction et dans une conception, on va dire, non antique de la fidélité. Parce que si on veut vraiment être fidèle à la répétition homérique, c'est fondamental. Homère, c'est la première machine répétitive. Ça se répète. Alors, quand on lit Homère en traduction, c'est comme chez Balzac, comme on dit, hein, au début, c'est Balzac, c'est ennuyeux, parce qu'il y a des descriptions. Puis au bout d'un moment, quand on est balzacien, on n'aime plus que les descriptions. Eh bien, pour Homère, c'est pareil. Homère, c'est ennuyeux parce qu'il y a des formules répétitives, mais au bout d'un moment, on n'aime plus que les formules répétitives. Mais la répétition chez Homère, il n'est pas du tout dit que ce soit comme pour un moderne, la répétition du même. Ce que l'auditoire homérique entendait, c'était peut-être pas la même formule, alors que pourtant, c'était les mêmes mots. C'est tout le problème du fait que quand vous répétez la même chose à deux endroits différents, ça n'est plus déjà la même chose. C'est-à-dire le problème même. Donc la sacro-sainte règle, tu traduiras le même mot par le même mot, tu traduiras le même mot grec par le même mot français ou le même mot anglais par le même mot français, pour moi ne vaut pas, mais par fidélité à ce que devait être la différence dans la répétition grecque. Voilà.
Mais alors, par exemple, il y a des ajouts, par exemple, d'adresse au lecteur. Enfin, il y a des ajouts qui sont aussi destinés de la manière.
J'ai opéré trois ou quatre sacrilèges. Le premier, c'est celui-là. Tu traduiras comme j'ai fait l'abbaye de Thélem. Fais ce que voudras. Tu traduiras comme tu sentiras la même formule, même si elle n'est pas au même endroit. Première injonction. Deuxième injonction, c'est ce que j'appelle le cinéma d'Homère. Homère, vous savez ce qu'on dit, Homère était aveugle. D'abord, Homère, on ne sait pas qui c'est, on ne sait même pas si c'est un aveugle, peu importe, on ne sait même pas si c'est un individu. Mais si les anciens ont répété ça, c'est que ça avait un sens de dire que le père de la poésie est aveugle. Je passe sur la symbolique, que l'aveugle voit mieux que le voyant, etc. Bon, on a parlé du voyant tout à l'heure, lumineux. Oui, peut-être, c'est ça. Mais ça veut d'abord dire, Homère est aveugle, ça veut dire, la poésie, ça sort d'une bouche, et ça entre dans des oreilles. Ça passe pas par des yeux, pour aller dans un cerveau. Autrement dit, traduire Homère, c'est être un aveugle au cinéma. Qu'est-ce qui lui reste un aveugle au cinéma? Il lui reste l'audiodescription. Donc, j'ai fait une audiodescription d'Homère. C'est pourquoi, pour que Homère soit une machine immédiatement perceptible pour un public d'aujourd'hui, vivant aujourd'hui, je me suis dit, tu vas essayer, alors ça, on aime ou on n'aime pas, ça marche ou ça ne marche pas, je ne sais pas, tu vas audio-guider non pas le lecteur, mais l'auditeur. Mais pour. Alors moi j'interviens. Attention, regardez, vous avez vu, là, voilà. C'est-à-dire, je balise le texte. Alors en tant qu'helléniste, je peux me défendre quand même. Parce qu'en grec, il y a tout un tas de mots qu'on ne traduit jamais, qu'on appelle des particules. Et ce sont des mots intraduisibles. Ce sont parfois un simple phonème. Par exemple, il y a une petite particule en grec qui est gay. Gamma, epsilon. Et en plus, elle est élidée, donc parfois c'est un g. Eh bien, ce g en grec, il a 1000 sens possibles et il donne ce qu'on appelle en musique des nuances, ou ce qu'on appelle au théâtre des didascalies. G, ça veut dire ouais, à fond, d'accord, super, ou alors ça veut dire bon, bon, ou ça veut dire évidemment, ça veut dire des gestes, ça veut dire des mimiques, ça veut dire de la gestique verbale. Les particules grecques, on le dit, les hellénistes on le dit, une phrase grecque sans particules, c'est comme un repas, un plat sans assaisonnement. Ça n'a aucun goût, une phrase grecque sans particules. Donc, est-ce que le sens chez Homère... Or, à l'époque homérique, c'est une très vieille langue, donc c'est une langue dans laquelle ces particules ont encore plus de concrétude et de poids. De même que les prépositions chez Homère, elles ne sont pas encore des prépositions. C'est comme si vous voulez, chez Homère, on était... vous connaissez les Vaches Noires, cet endroit extraordinaire entre Villers-sur-Mer et Houlgate, c'est là où on peut aller trouver des ammonites qui sont encore molles. Vous avez des fossiles en train de se fossiliser aux Vaches Noires. Ben moi, j'ai voulu mettre le lecteur dans cette espèce de préhistoire en train de se faire. Et pour ça, oui, je peux m'abriter derrière le fait que je traduis comme ça les particules du grec ancien.
Bon. Alors là, on parle beaucoup donc en fait de la manière donc dans la langue, hein, dans l'écriture, voilà, de répondre, enfin de faire en sorte que ça s'adresse à un public contemporain. Et tout à l'heure justement, quand on parlait du souci de la terre, on disait en fait Frédéric Boyer disait qu'il avait traduit aussi le souci de la terre parce qu'il savait que ça allait trouver écho par rapport aux préoccupations donc en fait qui sont les préoccupations donc on a dit éco-poétiques. Enfin voilà. Est-ce que là, du point de vue de la signification dans l'Odyssée, il y a des questions qui, en fait, semblent particulièrement en fait, être soulevées par la lecture contemporaine.
Vous êtes en train de me demander si Homère est une œuvre contemporaine.
Non, si y a des nouvelles...
Non, mais parce que moi, je vais vous dire oui.
Oui, bah oui, oui. Mais quelles sont les questions d'aujourd'hui, en fait, qui pourraient renouveler, d'une certaine manière, la lecture d'Homère? Est-ce que, en traduisant Homère...
C'est l'inverse. Voilà. Qu'est-ce que la lecture d'Homère renouvelle dans les questions d'aujourd'hui? Je me permets.
Peut-être, on peut faire ça comme ça.
Je me permets. Comme l'a dit Frédéric, la question des anciens, c'est, vous savez, au deuxième acte d'En attendant Godot, Beckett, qui est un de ceux qui a le mieux compris, parmi tous les grands du XXe, Beckett, il sait ce que c'est que la voix, et il sait ce que c'est que le fait que la voix, même la voix actuelle, elle est, si c'est une vraie voix, de toute façon, elle est toujours morte. Et Vladimir et Estragon disent « toutes les voix mortes ».
ça fait un bruit de sable, de feuilles. C'est-à-dire, voilà des gens qui nous ont dit une bonne fois pour toutes, mais personne ne veut l'entendre, la voix, c'est un truc mort. Mais ce n'est pas un truc mort au sens où il ne faudrait pas le ressusciter. Donc, les questions, la voix d'Homère ou la voix de l'Odyssée, les questions qu'elle permet de faire entendre aujourd'hui, je dirais c'est presque toutes, puisque Ulysse est un type, pour la faire courte, et puis pour la faire aussi un petit peu pour c'est un problème de registre aussi. Excusez-moi, je fais des parenthèses dans les parenthèses, que je me suis autorisé, parce que c'est ça les Grecs. Nous, on est habitués, si on est dans la tragédie, alors c'est Racine, si on est dans la comédie, alors c'est Molière, ou je sais pas, ou Jamel le Debbouze, ou Gad Elmaleh, je sais pas lequel. Ce que je veux dire, c'est que quiconque a fait du grec sait très bien qu'il y a tous les registres dans une tragédie, le registre dit bas, vulgaire, familier, le registre très élevé. Les Grecs ne faisaient pas de séparation. Donc, Ulysse est un type qui, d'ailleurs comme Achille, ne veut pas faire la guerre, qui va à la guerre parce qu'il a une parole donnée à un autre type, Agamemnon, qui veut défendre l'honneur de son frère, Ménélas. Il est engagé par un serment, par une alliance. Et donc, il va devoir aller faire cette guerre, Ulysse. Il aura la chance que Achille n'a pas, c'est-à-dire il ne va pas y laisser la vie là-bas à Troie. Et il va rentrer, mais le fait qu'il rentre, il va le payer, et il le paye au moins de deux ou trois manières, puisqu'il va mettre 10 ans à rentrer alors qu'il a déjà perdu 10 ans là-bas. Que pendant qu'il est parti, évidemment, ça se passe très mal chez lui. Enfin, très mal, non. Parce qu'en réalité, les prétendants ont tout à fait le droit, c'est dans la règle, d'épouser celle qui serait la veuve. Mais comme on ne sait pas s'il est mort, en théorie, eh bien, elle ne veut évidemment pas se déclarer veuve et elle pressent qu'il va rentrer. Mais n'oublions pas que quand Ulysse rentre chez lui, tout reste à faire. Et même une fois qu'il a massacré tout le monde, c'est très violent, la fin de l'Odyssée. Très, très violent. Ulysse est un type génial. Le couple le plus beau de l'histoire de la littérature, c'est ce couple qui n'en est pas un et qui en est un, entre Athéna et Ulysse. Couple vis-à-vis duquel la femme Pénélope n'est pas jalouse, et elle a raison. Il n'y a aucune jalousie à avoir d'Athéna quand on est Pénélope. Et pourtant, quelle est la plus grande intimité possible, au niveau même de la réflexion actuelle sur les relations inter-individuelles ou génériques entre cette déesse très particulière et cet homme très particulier. Qu'est-ce que c'est que cette intimité, déjà, qui est une intimité très paradoxale et qui n'empêche surtout pas l'intimité du mari et de la femme. D'accord ? Déjà ça. Et quand il rentre, il va tuer tout le monde avec une scène qui, en la retraduisant, en étant... On traduit aussi ça, Frédéric, je pense qu'il ne l'a pas dit, mais c'est une évidence pour tous les traducteurs. On traduit pour découvrir. Tant qu'on n'a pas traduit, on n'a pas vraiment... On ne s'est pas autorisé à découvrir des choses qu'on n'avait jamais vues, même dans l'original, même si on connaît par cœur l'œuvre. Donc, il rentre. Il s'en sort, oui, parce qu'il y a Athéna, mais il s'en sort aussi par ses qualités personnelles que vous connaissez, de ruse, d'endurance, etc. Et là, il y a des scènes terribles où on ordonne aux collabos, il demande à faire la liste des collabos. Ulysse, il fait de l'épuration. Il ne tond pas des femmes, mais il va les pendre. Il va les pendre comme des oiseaux, pris au collet. Après leur avoir fait empiler les cadavres des hommes qui étaient dans la salle. Bon, voilà. Vous allez dire, oui, mais ça, c'est de l'anachronisme. Ben oui, mais nous, en 2022, on ne peut pas ne pas penser, évidemment, à des exterminations du XXe siècle. Oui, parce que traduire aujourd'hui, c'est faire ces contresens-là. C'est ça aussi. Donc, on s'autorise ça, forcément. Forcément, on ne peut pas ne pas penser à ça. Et puis, la première nuit de retrouvailles entre le mari et la femme, avant même les retrouvailles physiques, Ulysse a le malheur de dire à Pénélope, et ça c'est abyssal pour nous modernes, qui sommes réellement, alors là pour le coup à la fin du monde, on le sait tous, eh bien Ulysse dit, tu sais, j'en ai pas fini avec la galère. Je vais encore devoir partir. Et Pénélope, dans son immense mansuétude, qui aurait dû soit se mettre en colère, soit faire chambre à part, soit fondre, soit de désespoir, soit gâcher son propre plaisir, des retrouvailles. Pénélope lui dit, bah écoute, tu en as trop dit, vas-y, raconte-moi ce que tu dois faire. Et là, on sait qu'Ulysse va devoir prendre une rame sur le dos, et il va devoir aller marcher pendant des kilomètres jusqu'à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a une deuxième odyssée après l'odyssée. Donc Ulysse, évidemment, c'est le migrant éternel qui n'aura absolument... Il a failli rester 10 000 fois en Méditerranée, sur la plaine de Troie. Ensuite, il va redevoir traverser des continents. Va-t-il revenir? Les Grecs avaient échafaudé plein de légendes pour son retour, finalement, quand il aura calmé Poséidon. Et là, il y a une légende qui n'est pas très agréable, où finalement, il est tué par le fils qu'il aurait eu avec Circé, lequel fils naturel s'appelle Télégonos, qui veut dire en grec celui qui est né très loin, et c'est une blague sur Télémaque. Autrement dit, les Grecs étaient largement aussi désespérés que Vladimir et Estragon, c'est ce que je voulais dire.
Alors, est-ce que... pour qu'on m'entende concrètement, en fait, justement, ce que vous avez voulu faire, est-ce que tu peux nous lire, donc, en fait... le début, en fait.
Alors, ce que j'ai fait, parce qu'il se trouve que là, je vous remercie toutes deux, hein, c'est quand même... tout le monde me fait beaucoup bosser à Caen, aujourd'hui.
On s'est accordé, hein.
Ouais, je sais, François aussi. Donc, je ne vais pas faire la même chose à l'abbaye d'Ardennes. Donc, j'ai fait un montage du tout début du chant 1, mais pas le prologue. Le prologue, tout à l'heure, pour ceux qui seront là tout à l'heure. J'ai fait un montage où je vais entrelarder ma manière de dire des vers grecs. Rassurez-vous, je ne dirai pas autant de vers grecs que de français. Et puis, où je prends au démarrage du récit. C'est le vers 11 du chant alpha de l'Odyssée. Si vous voulez retrouver l'affaire, et sinon on vous enverra ceux qui veulent avoir le montage, je vous l'enverrai avec plaisir. Et donc tout ce que je vais dire en grec va être traduit en français avant ou après. N'ayez pas peur.
Je me mets debout, ça s'embête pas. Là-bas même, ça peut être.
Oui, c'est ça.
En talloimen pantes, hosoi pugonai punoletron, oikoyesan, polemonte pepeugotesa de talassan. Voici tous les héros, tous ceux qui ont pu fuir le gouffre de la mort. Ils sont à la maison, ils ont réchappé de la guerre et de la mer. Mais lui, il est le seul, son retour et sa femme, à se contenter d'en rêver. C'est Calypso, la nymphe vénérable, divine parmi les déesses, qui le retient au couloir de sa grotte et qui le veut à tout prix pour mari. Viendra le temps, après bien des années, où les dieux lui tisseront le destin de rentrer chez lui, oui, à Ithaque. Mais même alors, même au milieu des siens, il n'aura pas fini d'en endurer. Tous les dieux plaignent son sort, tous, sauf Poséidon. C'est dire s'il va le persécuter, Ulysse, ce rival des dieux, tout le temps qu'il va mettre à regagner sa terre. Toi, si des moutons, erke pater andrante teante, mnesa togar katatou, mon amou, mon osai, gistoyo, ton ragamemnonides, tel ecluto sectanorestes, tou hogepimnesteis, wepeatra natoisimete, ouda. Alors il prend le premier la parole, le père des dieux et des hommes. C'est que son cœur se ressouvient d'Égiste sans reproche. Vous savez, celui que le fils d'Agamemnon, Oreste, si connu partout, a massacré. C'est bien lui qu'il se rappelle quand il lance ses paroles aux immortels. Donc là, c'est Zeus.
Oh, popoi, oionden uteus brotoia itiontai. Ah, misère! Ces reproches dont les mortels ne cessent d'accabler les dieux. À les entendre, leurs ennuis seraient de notre faute. Alors que ce sont eux, oui, eux, dont les folies font franchir à leur peine la limite pourtant fixée par le destin. Exactement le cas d'Égiste. Franchissement, qui s'est-il permis d'épouser? La femme du fils d'Atrée. Et vas-y que je tue le mari quand il rentre.
Normal qu'il ait connu le gouffre de la mort. Nous l'avons bien assez prévenu. Nous avons pris la peine d'envoyer Hermès, l'œil perçant qui voit tout. Surtout qu'il n'aille pas tuer Agamemnon ni épouser sa femme. Sinon, Oreste finirait toujours par venger le fils d'Atrée dès qu'il aurait grandi et senti le mal du pays. Hermès a eu beau dire et beau faire, il s'est heurté à l'opiniâtreté d'Égiste sans pouvoir le raisonner. Résultat, toute l'addition a payé. La déesse Athéna, la chouette aux grands yeux, « Thea glaucopis Athéna, dit alors à son père. « Notre père, fils de Cronos, altesse des puissants, c'est bien fait pour lui, il a eu la mort qu'il mérite, et que la même chose arrive à quiconque ferait pareil. « Alla moiam fodusei, da wipfroni, daiet aietor. » Parlons plutôt d'Ulysse, le perceur de pensées. J'en ai le cœur percé. Le malheureux, le voilà si loin des siens, à souffrir mille maux sur une île escarpée, pile en plein nombril de la mer, une île recouverte de forêts, une déesse y vit, c'est la fille d'Atlas le périlleux. Il sait tout de la mer, de chacun de ses gouffres, et il soutient lui-même les énormes piliers qui maintiennent le ciel à l'écart de la terre. Tout fugater d'ustenon, oduro menon cateruque. Aiei de malacoisi, caiai mulioisi logoisi, tselgi, opposita crece, piles et tai. Oui, c'est elle, sa fille, qui retient le malheureux. Il en gémit. Ce ne sont que cajoleries, que roucoulades, pardi, dont elle veut l'hypnotiser, pour qu'il en oublie son Ithac. Mais Ulysse, autaro d'Uceus, ah, revoir la fumée de son toit au-dessus de sa terre, voici ce qu'il désire. Il veut mourir. Qui yemenos kai capnon apotros contanoesai, es gaies tanein himeretai. Et toi, roi de l'Olympe, ça ne te révulse donc pas le cœur? Il ne t'a donc jamais, Ulysse, ou nutoduceus, régalé de victimes près des vaisseaux des Argiens, dans la vaste Troie, pourquoi telle haine Zeus que Ulysse sacrifie? Là, il y a une blague en grec qu'on ne peut pas traduire. Alors je me suis inspiré d'une de mes grandes sources d'inspiration, qui est Bobby Lapointe. Et Bobby Lapointe, vous savez, que Ulysse sacrifie, c'est très tiré par les cheveux, mais là, on entend, parce que dans le grec, il faut vous dire que Odysseus, Homère, fait une blague avec un verbe « odousao » qui veut dire « haïr ». Donc il faut faire entendre « haine » dans Ulysse. Si vous avez meilleure solution, donnez-la-moi. Je n'ai pas trouvé en français moyen de faire sonner « Ulysse » et « haine » avec le même mot. Donc j'ai bricolé une espèce de ce qu'on appelle un vers olorine, comme chez Bobby Lavoine. « Pourquoi telle haine Zeus que tu l'y sacrifies ?»« Tinuhoitosono dousao zdeu » Écoutez alors la réponse que lui fait Zeus, l'amasseur des nuages.
Technonemon, poion se wepos pugenaipun, hercosodonton.
Mon enfant, quel est donc le discours qui vient de s'échapper par l'enclos de tes dents? Comment voudrais-tu que moi, j'ai perdu le souvenir d'Ulysse le divin, de l'homme dont l'intelligence distance les mortels autant qu'il les surpasse par les sacrifices qu'il fait aux immortels, aux habitants du vaste ciel. Non, c'est Poséidon, le maître de la terre.
Poseidaon gaieokros.
Qui jamais ne décolère pour son cyclope, tu sais bien, pour son œil qui lui a crevé, son rival des dieux, Polyphème, lui dont le pouvoir est suprême sur tous les cyclopes. C'est de là, tu comprends, que Poséidon, le maître des séismes, bien loin de le tuer, Ulysse, prend le temps de le perdre bien loin, loin de chez lui, de sa patrie. Mais allons, nous tous, tant que nous sommes, occupons-nous de son retour. Il va rentrer, trouvons comment. Eh bien, dépêchons Hermès, le messager qui voit tout, dans l'île d'Augugillet, pour qu'il révèle au plus vite à la nymphe bien bouclée notre décision sans appel. Le retour d'Ulysse, assez prouvé son endurance, il faut qu'il rentre.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais demander s'il y a des questions, parce que comme il faut qu'on enchaîne avec l'IMEC, est-ce qu'il y a des questions dans le public, dans la salle, donc autour de cette traduction, sachant que vous allez pouvoir l'entendre à nouveau si vous allez à l'IMEC tout à l'heure. Oui.
Moi, je trouvais ça très intéressant, effectivement, la comparaison entre la traduction et la musicalité qu'on trouve avec le mouvement. Et j'irais peut-être même encore un peu plus loin en imaginant, effectivement, que l'interprétation du traducteur, elle est elle-même une reprise. Par exemple, prenons deux chefs d'orchestre qui interprètent différemment Constantin Mozart. On n'aura pas la même interprétation entre Valéry Gergiev et, par exemple, Gustavo Dudamel. Et effectivement, je trouve que cette comparaison-là, même dans l'interprétation d'un mouvement musical, elle est aussi proche de celle du traducteur, en fait, qui prendra une approche très différente, qui s'attachera certes au texte de base, mais qui va l'emmener vers encore un autre univers. Et je trouve qu'on peut aller d'autant plus loin, effectivement, dans les comparaisons entre musicalité et traduction. En tout cas, je le vois comme ça, je dis peut-être que c'est... Enfin, c'est discutable.
Mais... Alors, Homer dit « Meilikiois wepe wesi », vous parlez avec des mots de miel, je ne peux que souscrire. C'est des mots de miel. Si vous comparez les interprétations de concerti de Mozart, là on est fait pour s'entendre. Mais parce que interpréter, c'est uniquement dans ce sens-là, ça suffit, comme dit Montaigne, arrêtons d'interpréter les interprétations. Il faut interpréter au sens dramaturgique, ou au sens, c'est-à-dire, il faut incarner, il faut prêter sa voix, et effectivement, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de... En musique, c'est obligatoire, ça. Mais il ne faut pas oublier, moi c'est un peu mon petit créneau militant, parce que par ailleurs je fais de la musicologie, mais notre histoire qui s'appelle l'histoire de la musique occidentale, d'où elle vient ? Aussi loin qu'on remonte, elle remonterait au chant grégorien, lequel chant grégorien est une interprétation des mélodies de la langue grecque antique. Autrement dit, moi la thèse un peu grosse que je soutiens, c'est que ce qu'on appelle l'histoire de la musique occidentale n'a rien de différent de ce qu'on appelle l'histoire de la littérature. Parce que, de toute façon, ce ne sont que des évolutions d'interprétation, non pas au sens herméneutique, mais uniquement au sens musical. Oui. Et les textes ne sont... de ce point de vue-là, effectivement, je dis toujours que c'est comme si... on ne jouait aucune des partitions de tous les compositeurs que nous possédons. Voilà. C'est un peu le même scandale que moi je ressens par rapport aux Grecs anciens. On a les partitions, il suffit de les jouer, évidemment. Quand on voit qu'on s'écharpe, les baroqueux s'entretuent sur la manière de phraser les phrasés dans une suite de Bach, et Bach, c'est pas moins 750 avant Jésus-Christ. Donc, on est libre avec Homère si déjà on n'a pas une vérité pour de la restitution prétendue d'instruments anciens et de phrasés de Bach, ou même de Mozart, ou même beaucoup plus récemment. Et je ne nie pas l'intérêt de la reconstitution et d'instruments anciens. Mais effectivement, moi j'ai un peu fait le deuil de l'instrument ancien. Je me suis dit, instrument ancien, voilà. Enfin, je suis pianiste, je joue mal du clavecin et du clavicorde, mais j'aimerais... En bien joué. Mais je pense aussi, pardon, je fais une petite parenthèse, parce que là je parle à un musicien, je pense aussi que, comme je dis de manière un peu provocante, c'est pas anti-reconstitution, mais si vous aviez pu donner un Steinway à Mozart, vous auriez vu ce qui vous en aurait fait. Il aurait été bien content, aussi. Bach n'arrêtait pas de faire évoluer la facture de l'orgue. Parce que les instruments de son époque étaient trop petits, réduits par rapport à ses idées musicales. Donc c'est ça, traduire. Traduire, c'est chercher l'instrument.
Et il y a d'autant plus un fossé que entre, par exemple, un Bach et un Ravel, où Bach, rien n'est écrit. Et même, c'est une des choses qui est d'autant plus intéressante sur les écharpages de baroque.
Oui.
C'est qu'effectivement, rien n'est écrit chez Bach.
Tout est écrit. Tout est là. Mais tout est là. Il faut ça à chacun... de voilà. Savoir à chacun de le faire chanter à sa manière, de même que dans le texte grec d'Homère. Tout est là, mais à chacun d'y aller. C'est tout.
Juste une chose, je reviens sur... Donc en fait, c'est ça, c'est l'interprétation au sens, hein, ce que tu as dit, donc au sens non pas herméneutique, mais au sens musical.
Oui, j'ai rien contre l'herméneutique, mais Hermès, c'est le dieu des commerçants et des voleurs.
Oui, mais je pense que c'est peut-être la différence aussi par rapport à la traduction de Frédéric Boyer, qui lui revendique justement une interprétation au sens herméneutique, il me semble.
Je ne sais pas.
Dans sa lecture...
Je ne crois pas. Sinon, je pense qu'il n'aurait pas accepté mon Odyssée chez P.O.
Oui,
bien sûr. Oui.
Il a la largeur d'esprit suffisante, je crois, comme un éditeur.
Oui, mais,
qui...
mais curieusement, parce que... non, c'est vrai. Mais en même temps, parce que j'en ai beaucoup parlé avec lui, tu me doutes, quand même, même si c'est un éditeur formidable, on va dire où il n'intervient pas. Ou alors de manière extrêmement discrète et voilà, et très bienveillante, etc. Mais ça ne veut pas dire que quand on a fait sonner différemment, ça ne va pas changer l'herméneutique.
Bah bien sûr, oui.
Mais je pense que c'est plutôt dans ce sens-là.
Oui, mais que chez lui, il y a, enfin en tout cas dans son introduction et la manière dont il le présente, voilà, il présente quand même une dimension herméneutique. Enfin,
Oui, mais je dirais, si on veut, moi aussi, bien sûr, je ne fais pas comme si un texte n'était pas fait avec des mots qui, malheureusement, ont aussi un sens. Et donc, malheureusement, en ont autant qu'on veut. C'est-à-dire que, oui, il y a de la polysémie. Mais déjà, si on rapproche la polysémie de problèmes, comme il l'a bien dit, d'artisanat linguistique, alors peut-être qu'on fondera un peu mieux des options herméneutiques, c'est tout. C'est juste rebrancher, redonner du corps. Tout simplement.
Ah ben ça, oui, c'est sûr.
Redonner un peu de corps. Mais c'est pas du tout les mêmes. Tout à l'heure, je crois que c'est Claire qui parlait de Reznikov et des objectifs. Non, pardon, c'est toi qui parlais des objectivistes. Oui, chez Frédéric Boyer, parce que lui, c'est aussi un grand traducteur de l'américain contemporain. Enfin, tout un tas de domaines. Moi, je suis beaucoup plus ancien que lui, mais alors dans un sens vieux. Parce que lui, c'est un ancien dans le moderne et dans l'extrême contemporain. Mmh. Moi aussi, mais moi, beaucoup moins. Moi, je suis dans de l'ancien aussi, un peu en musique, tout en aimant énormément la musique contemporaine. Mais disons que c'est avec mon bagage musical et hellénique que j'ai bricolé ça.
Non, c'est pour montrer, en fait, le chatoiement de vos deux traductions. Enfin, en même temps, voilà, parce que comme on en a beaucoup, on les a beaucoup associés, c'est pour aussi faire apparaître...
Montrer les différences. Elles sont radicales.
Donc, voilà, donc c'est ça.
C'est vrai que moi, c'est l'aveugle au cinéma. C'est-à-dire, Frédéric, il faut voir le blanc de... C'est une traduction très calligraphique. C'est une traduction, c'est une mise en page, etc. Moi, peu importe. Alors oui, je respecte l'unité vert. Et je mets des numéros. Mais évidemment, c'est un peu une boutade, parce que si on essaye de retrouver l'original à partir de ma manière de le traduire, mais au moins, on sait que ça doit être là qu'il a traduit ce vers-là. Voilà.
Bien, je ne sais pas s'il y a d'autres... Ah.
Oui, c'est une question pratique. Est-ce que vous avez pensé à enregistrer cette traduction? Parce que là,
J'ai commencé par faire deux coffrets de CD aux éditions des femmes avec Daniel Mesnier. J'ai commencé par enregistrer avant d'écrire. Moi, je ne voulais pas faire, parce que ça, j'estime quand même que c'est un peu une trahison d'Homer, puisque Homer, littérature orale, ça, c'est quand même un objet mort. Il est beau, mais il est mort. Voilà, donc c'est un peu... Moi, j'ai commencé par faire de l'enregistrement, oui, mais pas toutes. Et puis là, il se trouve qu'il y a pas mal de projets en cours, parce que les gens de théâtre, ça les intéresse. Il faut dire que je leur ai un peu mâché la moitié du boulot.
Oui.
Là, j'ai facilité l'affaire. Mais ce n'était pas le but. Oui.
Franck.
Oui. Puisque, avec Frédéric Boyer, vous avez dit que cette traduction, c'était mettre à la portée du monde d'aujourd'hui aussi un texte ancien. Est-ce qu'on arrive à quantifier un petit peu l'impact éditorial sur un public?
Vous voulez les chiffres de vente?
Voilà,
moi, j'ai pas le droit de les dire. Lui, il ne voudra pas.
C'est important de traduire, c'est urgent de traduire.
Bon.
Ici, tout le monde, je pense, est acquis à ce propos, donc tout ça, tout est formidable.
Alors,
mais ça reste confidentiel.
Là, si c'est moi qui réponds, je vais fishing for compliments. Je vais faire le faux modeste. Parce que je suis un peu dépassé par le succès.
C'est pas confidentiel du tout. Hein.
Par le succès.
Ah oui.
Ça, je m'attendais pas. Et donc, pour tout dire, évidemment, je voulais me reposer, mais il y a l'Iliade. C'est-à-dire non pas 12 000, mais 16 000 vers. Et moi, il se trouve que je suis avant tout spécialiste de l'Iliade. Et si j'ai commencé par l'Odyssée, c'est parce que l'Iliade me faisait trop peur. Et parce que l'Iliade, j'ai tellement travaillé en grec,
que du coup, je me suis dit, tu vas... Et puis, des Iliades en français, il y en a eu plein, dernièrement. L'Iliade de Philippe Brunet, qui était mon maître ami avec lequel j'ai travaillé. L'Iliade de Jean-Louis Baquès, qui est aussi un musicologue, etc. La dernière, c'est celle de mon maître et ami Pierre Judet de la Combe. Des Iliades, il y en a. Eh bien, il va y avoir... Alors, évidemment... emporté par le succès, entre guillemets, hein, c'est pas, attention, hein, je n'ai pas des chiffres de vente, c'est pas moi hein, le poids lourd chez P.O.L., vous le savez très bien, bien que j'ai le même prénom. Mais il y a d'autres poids lourds. Donc voilà, j'ai traduit 17 chants de l'Iliade, et mon Iliade, elle sort dans deux ans, parce qu'il y aura une Iliade. Mais là, vous, enfin bon, comme on dit, pour faire du teasing, vous avez aimé l'Odyssée, alors on va faire... Mais en revanche, non, moi je veux dire, vous avez haï son Odyssée, alors vous haïrez encore plus son Iliade, parce qu'il se trouve que, ayant plus de... Et ça, je le dis très sincèrement, l'Iliade, évidemment, pour moi, c'est la face nord de l'Everest. Parce que finalement, l'Odyssée que je connaissais moins, je la connais bien sûr en tant qu'helléniste, mais je l'ai moins travaillée personnellement. Et donc, je faisais ça pour mieux la découvrir. Et l'Odyssée est tellement plus humaine. Et puis l'Iliade, c'est no future. L'Iliade, c'est on revient pas, on y reste. Donc l'Iliade, c'est terrible. Je vous rappelle que tous les soldats dans les tranchées allemandes et dans les tranchées françaises, la plupart des soldats lettrés, ils avaient une Iliade dans la besace en 14. Voilà. Donc tout ça pour dire que traduire l'Iliade, c'est... Il se trouve que je suis grand consommateur de films de guerre, même de catégorie C ou D. J'adore ça. Parce que voilà, il faut trouver autre chose que ce que j'ai trouvé. Donc vous verrez si ça vous plaît ou pas, mais j'ai essayé de trouver autre chose.
Voilà. Je suis désolée, mais là, il faut qu'on part, tu vois, François. Voilà. Donc on arrête là. On vous remercie, on te remercie. Merci vraiment beaucoup. Voilà.